dernière conférence d'un cycle qui a commencé au mois de novembre sur la littérature orale. Donc on a fait un petit peu le tour des genres de cette littérature, on a passé par les mythes, les épopées, les légendes, les contes, les chants, et on arrive à quelque chose qui est très ambigu pour nous dans la littérature orale, qui est le récit de vie. Et on va essayer de voir un petit peu ce que c'est que ce fameux récit de vie. Alors peut-être avant de commencer le récit de vie, simplement vous dire que l'an prochain, le cycle se prolonge, mais on ne va pas repartir sur les mêmes sujets, bien sûr. C'est-à-dire l'an prochain, on va partir sur ce que nous on appelle les ancrages culturels de la littérature orale. C'est-à-dire que tous ces récits sont à la fois très très identitaires, ils sont d'un lieu. Hein. Donc l'idée c'est d'aller voir dans chaque pays, dans certains pays, hein, comment ça se passe. Donc en gros, pour vous donner un peu le programme qui est prévu, hein, on travaillera dans une première conférence pour essayer d'expliquer justement comment la littérature orale s'ancre dans des identités particulières. Il y aura une autre conférence sur le monde celte, il y aura une autre conférence sur les Inuits, sur l'Inde, sur la littérature orale chinoise, sur la littérature orale africaine, sur la littérature orale touareg et sur la littérature orale russe. Vous voyez, on va faire un petit tour du monde l'an prochain avec des contes et des répertoires très spécifiques, hein, qui correspondront aussi, comme ça chaque année, à la préparation d'un spectacle qui vient après. C'est-à-dire que tous les spectacles qui arrivent après seront bien sûr basés sur ce répertoire. Voilà. Donc ça, de toute façon, vous aurez sûrement à disposition assez rapidement le programme, hein, de manière à être informé là-dessus. Alors, le récit de vie, c'est un objet intéressant. C'est quelque chose qui est assez récent en France, le récit de vie, puisqu'on a introduit ce mot en 1976, pas vieux. Jusqu'avant, on parlait souvent d'histoire de vie. Hein. Mais le gros problème de l'histoire de vie, c'est qu'on ne faisait pas la différence entre ce qui était d'une parole qui émanait de la mémoire, et ce qui était l'histoire réelle de la personne qui parlait. Parce que dans récit de vie, il y a bien sûr cette notion de récit, de narration. On va voir que cet espace narratif est très important. Mais il y a surtout le fait qu'on fait appel à un objet qui est la mémoire d'une personne qui va nous raconter une traversée, pas complète de sa vie, parce que sinon ça serait une biographie, ou une autobiographie, ce qui n'est pas du tout le cas. Ça peut être une toute petite partie relative à une période historique, par exemple, mais aussi relative à un travail, relative à une fonction que la personne a pu occuper ou d'une expérience singulière qu'elle a pu traverser, en tout cas. Donc, on fait appel à la mémoire. Et la mémoire, c'est un drôle de jeu, la mémoire, puisque la mémoire, on sait très bien que ce n'est pas un outil, on va dire, fiable à 100%. Hein, c'est-à-dire que la mémoire n'est pas un objet qui va nous dire exactement ce qui s'est passé, mais elle va dire ce qu'on pense qui s'est passé aujourd'hui. C'est-à-dire que la mémoire est un objet du présent, c'est pas un objet du passé, en fait. Et on réaménage en permanence notre mémoire, sans s'en rendre compte, de façon très inconsciente. Hein. Donc les gens qui travaillent sur cette recherche du récit de vie, qui essayent de collecter, sont bien au courant de ça. Ils savent très bien que travailler sur une collecte de mémoire, c'est pas travailler sur une collecte de l'histoire. C'est très différent. Donc ça veut dire qu'il y a une part de subjectivité très importante que tous les chercheurs en sciences humaines ont l'habitude de travailler, hein, et dont ils tiennent compte systématiquement dans leurs propos ou dans leur travail. Voilà, donc on est là vraiment sur un type de récit, on va dire, qui, au début de ce travail, est avant tout une technique de recherche. Hein, c'est là que ça va nous changer, c'est-à-dire que justement, on a plutôt des techniques de narration spectaculaires, hein, ou des choses qui sont en tous les cas des répertoires institués pour être dits de façon presque systématique dans les veillées, dans des soirées, dans des familles. Hein, c'est un fond collectif qui est transmis. Le récit de vie, il faut d'abord aller le chercher. Il n'existe pas en soi. Ce n'est pas quelque chose qui est préalable à un travail de recherche. Donc c'est pour ça déjà que ça va faire une grosse différence. Hein. Voilà. Donc qu'est-ce qui se passe et qui va chercher ces récits de vie? La plupart du temps, ce sont des chercheurs en sciences humaines, donc soit des ethnologues, soit des sociologues, soit des historiens, soit des linguistes, hein, qui vont aller dans la campagne pour chercher ce récit de vie. Alors, cette notion de récit de vie, il y a une première chose, c'est une rencontre. C'est-à-dire que quelque part, quelqu'un va donner son récit de vie, mais s'il n'y a personne en face pour l'entendre, il ne le donnera pas non plus. Hein? Donc ça veut dire que c'est avant tout une rencontre entre deux personnes, une personne qu'on appellera ou l'informateur ou le sujet, et on verra que ce n'est pas tout à fait la même chose dans le récit de vie, hein, et une personne qui est le collecteur, qui vient chercher cette matière. Hein. Alors, le collecteur, la plupart du temps, lui, il a une intention, c'est-à-dire qu'il ne vient pas chercher n'importe quoi, il sait pourquoi il fait sa recherche et qu'est-ce qu'il a envie, pas d'entendre, mais d'obtenir. Il ne sait pas ce qu'il va entendre pour l'obtenir, c'est tellement... Il sait dans quelle direction il va amener en tous les cas la personne. Hein. Donc il ne va pas non plus choisir n'importe quelle personne, il va plutôt chercher une personne qui a une compétence dans ce domaine-là. Hein. Si par exemple ici en Cévennes on veut travailler sur la mine, on ne va pas aller voir un menuisier. Alors on va avoir une représentation de la mine, mais on n'aura pas celui qui a travaillé dans la mine. Hein. Donc déjà il y a un choix, il y a un premier élément qui est souvent un questionnaire mais un minima, c'est-à-dire qu'on essaie de ne pas trop poser de questions parce que sinon ça enferme la personne, mais on va essayer de lui donner une clé pour démarrer son récit de vie. Et souvent, ça part de « Vous avez été mineur en quelle date ?» Je vais prendre la mine, puisqu'ici, on connaît bien. La personne dit « J'ai été embauché en, je sais pas, 54. Voilà. Vous avez été mineur jusqu'à quand ?» Donc, racontez-moi cette période. Et on voit ce qui sort. D'accord ? Et ce qui va être important pour le collecteur d'abord, c'est bien sûr de guider la personne dans une logique. Alors, pour les historiens, ce sera plutôt une logique historique. Ils vont essayer de garder une chronologie, même pour l'ethnologue, à la rigueur, hein, parce que ça permet d'organiser à minima quelque chose. D'accord ? Ce que va dire la personne, bien sûr, la plupart du temps, on n'est pas préparé à ça, mais c'est là qu'on se rend compte que la mémoire est quand même capable de sacrés exploits. Hein, c'est-à-dire qu'elle va aller chercher, dans le temps, des images, des sensations, hein, des éléments de cet ordre-là. C'est-à-dire que notre mémoire est des fois capable d'aller chercher des petits bouts de choses extrêmement précises dans des endroits qu'on pensait ne plus du tout avoir en mémoire. Hein? Mais ça veut dire que là, la personne qui interroge est très importante. C'est-à-dire que si elle n'est pas un bon guide, on ne va pas trouver cette mémoire non plus. Hein? Donc c'est lui qui va faire souvent des propositions en vous disant, bon ben tiens, là la première année, votre embauche, vous vous en rappelez? Racontez-moi votre embauche. Vous êtes rentré comment dans le... Et du moment qu'on dit ça, il y a toute une série d'images qui sont mises en place, il y a des trous, hein, mais n'empêche qu'il y a quelque chose qui se met en route. Hein. Et ce qui va être très important pour quelqu'un qui va chercher ce récit de vie, c'est surtout d'éviter de faire penser les gens, mais plutôt de leur demander de décrire ce qu'ils ont fait, leur expérience. Hein. Donc on leur demande, il y a un mot qui est essentiel dans la collecte, c'est le mot « raconter ». Et déjà là, on voit bien qu'à la littérature orale, on a quelque chose qui est bien similaire sur cet ordre de la narration. Hein. C'est-à-dire que tout récit de vie passe systématiquement par un espace narratif. Hein. Sinon, on peut être dans la collecte, mais on n'est pas obligatoirement dans le récit de vie. Hein. Voilà, donc le terme de narration est extrêmement important. Donc ce contrat à deux, c'est un contrat, hein, voilà, c'est quelque chose qui va faire en sorte qu'une personne aille chercher dans sa mémoire et donne son expérience de vie, avec tout ce qui est le subjectif, donc tout ce qui n'est pas vrai, à terme, mais ce n'est pas grave, ce n'est pas faux en réalité, mais c'est une représentation qui s'est mise en place. Hein. Voilà. Nous, on a un cas de collecte qui est vraiment flagrant à ce niveau-là, c'est quelqu'un qui nous raconte un fait de guerre, hein, avec beaucoup d'enthousiasme et beaucoup de... Voilà, et puis à un moment donné, on lui pose une simple question, mais vous étiez où ? Et là, on l'a vu blêmir. Parce que de là où il était, il ne pouvait rien voir. D'accord ? Donc ce qu'il nous racontait n'était pas faux, mais ce n'était pas ce qu'il avait vu. C'est ce qu'il avait entendu dire par les collègues, c'est ce qui avait été dit après. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit que notre mémoire n'est pas fondée uniquement de ce qu'on a vécu, mais de ce qu'on a aussi lu, de ce qu'on a aussi entendu, de ce qu'on a vu à la télé, de ce qu'on a vu. C'est-à-dire que notre mémoire s'enrichit et se complète de chaque élément qu'on traverse dans notre vie. Hein. Donc c'est pour ça que je dis que ce n'est pas une question de vouloir mentir, mais c'est quelque chose, on a l'impression d'avoir vécu ça. Hein? Donc le récit de vie, bien sûr, pour celui qui collecte, il sait très bien que ce qu'il va entendre sera à confronter à d'autres témoignages, à ce qui a été écrit, pour en faire ce qu'on appelle l'histoire de vie. Hein? Donc la grande différence qu'il va y avoir entre le récit de vie et l'histoire de vie, c'est que le récit de vie, c'est une histoire singulière subjective. L'histoire de vie, c'est quelque chose qu'on ramène de la subjectivité vers le maximum d'objectivité. L'objectivité totale n'existe pas en science humaine. Hein. dire qu'on touche à l'humain, de toute façon, cette objectivité est presque impossible à atteindre. Hein, voilà. Donc, on est dans un espace, bien sûr, où on crée un artifice qui est, par exemple, une chronologie, mais c'est souvent la chronologie qui va être là, pour qu'une personne puisse dire son récit. S'il n'y a pas cet artifice, la parole va être décousue. Parce que notre mémoire est surtout fondée, en réalité, sur des chocs émotifs. Hein ? C'est-à-dire les chocs dont on se rappelle le plus, c'est des endroits où on a eu des émotions fortes. Hein ? Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si vous laissez quelqu'un raconter son histoire, il va simplement passer d'une émotion à une autre, de façon relativement décousue. Hein, si on ne lui fait pas une proposition de structure, et bien sûr, ça va être très difficile à entendre, et très difficile à comprendre. D'accord ? Donc là, l'artifice, ça va être souvent cette chronologie qui fait qu'on organise dans la mémoire de la personne quelque chose qui va énoncer de façon beaucoup plus complète, hein, guidée par le collecteur. Donc on va créer un artifice pour recomposer les traits de mémoire. Hein. Donc c'est ça qu'on va appeler le récit de vie, c'est-à-dire que le récit de vie, bien sûr, ce n'est pas toute une vie éventuellement, comme je disais, ça peut être que le travail, mais dans ce travail-là, on va trouver une cohérence, qui peut être donc cette chronologie, mais qui peut être des fois aussi toutes les tâches qu'on a accomplies, qui pouvaient être des tâches difficiles ou des tâches techniques, bon, ça dépend ce qu'on cherche en fait. Hein, voilà. Donc cette construction de l'histoire orale, c'est ça qui va intéresser aussi les historiens à terme. C'est-à-dire que de plus en plus, aujourd'hui, on est en train de constituer des fonds d'archives orales. Hein, parce que ce qui se passe souvent, c'est qu'on va avoir un événement qui a été écrit. Hein, l'écriture, pareil, ce n'est pas une objectivité totale non plus. Parce que si quelqu'un, par exemple, sur des fonds de manifestation, ça c'est un vrai sujet ici, qui est sur la préfecture d'Alès, est allé voir des archives sur les grandes manifestations de 48. Hein. Donc, bah, qu'est-ce qu'il a trouvé, bien sûr ? Un élément de la police, un élément de la préfecture. C'est eux qui avaient écrit. D'accord ? Déjà, quand il est allé voir les syndicats, c'était plus tout à fait la même chose. D'accord ? Mais en plus, quand il est allé faire de la collectorale, il s'est retrouvé avec une dizaine de versions, pas toujours cohérentes, du même événement. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire que l'événement, c'est quoi, en fait ? C'est la parole de la préfecture, c'est la parole de la police, celle du syndicat, ou celle de ces dizaines de personnes qui ont vu des choses différentes. Hein ? Donc aujourd'hui, on est de plus en plus à la recherche de ces regards singuliers qui ne sont pas d'ailleurs complètement contradictoires, mais amènent une richesse supplémentaire, hein, à l'information. C'est-à-dire que petit à petit, cette information qu'on voyait que d'un seul côté, bah, s'éclaire de différents côtés. Donc l'institution, même aujourd'hui, je dirais, commande des éléments de mémoire orale et d'histoire orale. Hein. C'est-à-dire qu'on est vraiment sur des espaces qui sont commandités, et on peut comprendre pourquoi. Hein. C'est-à-dire que qu'est-ce qui va se jouer, par exemple, quand une barre de bâtiment va être détruite ? Donc, une barre de bâtiment qui va être détruite, c'est en même temps des gens qui ont peut-être vécu là-dedans ce qu'ils ont vécu. C'est pas toujours gai, c'est pas toujours triste non plus. Hein, mais c'est 30 ans d'une mémoire. C'est 30 ans d'une mémoire qui vont s'éteindre dans une minute. Et c'est un support à une mémoire qu'on ne pourra plus avoir. D'accord ? Donc, ce support à la mémoire, il y a deux façons de le sauvegarder. C'est vous prendre des photos, d'accord, mais c'est complexe une mémoire. Dire tout ce qu'on a dit dans un bâtiment, c'est vécu dans un bâtiment, c'est pas évident. Hein. Donc on peut tout à fait faire quelques photos, on va avoir des éléments, mais le jour où les parents vont avoir dire leur vie dans ce bâtiment aux enfants, bah, s'il n'y a pas les supports, ça va être extrêmement difficile. Hein. Nous, on rencontre ça, par exemple, parce qu'on travaille maintenant depuis presque 10 ans sur les transmissions de mémoire de migrants. Hein. Ça fera 10 ans en 2009, 2010, pardon. Ça veut dire qu'est-ce qui se passe ? C'est qu'un migrant qui a besoin de dire son histoire à des enfants qui n'ont jamais connu le village, le paysage, sa condition de vie, et qui, je vous dis pas, il faut qu'il ait une sacrée capacité pour pouvoir expliquer tout ça. Parce que s'il n'y a pas d'image à mettre derrière les mots, c'est presque impossible à communiquer. Hein. Et c'est là qu'on s'aperçoit à quel point ces récits de vie sont importants pour compléter. Ici, il y a le puits d'Estival qui a été tombé en catimini un soir, arrivé le matin. Il y a des mineurs qui avaient passé 30 ans là-dedans. Bah, ils n'ont plus rien à faire voir à leurs petits-enfants. Hein, il va falloir qu'ils fassent un sacré effort de narration pour pouvoir expliquer ce qu'ils ont vécu. Dans ce moment, il manquera un support. Hein. Donc de plus en plus, on accompagne les destructions de patrimoine populaire, de patrimoine architectural, industriel, d'un travail de collecte de ces mémoires pour qu'il y ait quelque chose qui permette après de transmettre. Hein. Donc on fait ce qu'on appelle de l'archive orale. Hein, et aujourd'hui, les archivistes sont de plus en plus formés à aussi conserver, classer, trier ces archives orales. Alors ça, je dirais que c'est la matière extrêmement scientifique hein, qui est là. Mais le conteur qui veut se saisir de ce récit de vie, c'est de ça qu'il va se saisir la plupart du temps. Ou alors il va faire sa propre collecte sensible, hein, ce qui arrive aussi. Mais n'empêche qu'il va être obligé de se coltiner, on va dire, les cadres. Hein, vous allez voir le spectacle, si vous êtes là, de Gigi Bigot, qui a travaillé sur le camp d'internement des femmes à Mende, bah, c'est évident qu'il a fallu qu'elle aille les rencontrer, ces femmes-là. Il a fallu qu'elle aille dans les archives pour voir ce qui s'était passé. Même si, bien sûr, ce qu'elle en dit aujourd'hui, ce n'est pas une conférence historique. Elle est arrivée de nouveau à revenir au sensible. Hein. Donc c'est le camp de Riotor, pour ceux qui connaissent un peu l'histoire, hein, où les femmes étaient internées, à côté de Mende, hein, pendant la dernière guerre. Donc ça veut dire que pour les artistes, bah, où ils vont puiser dans un fond existant, et ils vont compléter cette histoire en allant chercher une mémoire sensible, qui n'est pas obligatoirement collectée par les chercheurs, hein, c'est-à-dire que ce n'est pas obligatoirement la même chose qu'ils vont aller chercher, et c'est là que c'est intéressant. C'est-à-dire qu'un artiste, pour arriver à créer un spectacle, il va avoir aussi besoin, non pas d'une expérience pragmatique et du quotidien, mais il va aussi avoir besoin de sentiments, d'émotions. Il va aussi avoir besoin de ressentis, hein, de perceptions, voilà, de comment les gens avaient des représentations de ce qui était en train de se passer. Donc c'est des matières un peu différentes, mais qui complètent, bien sûr, ils vont quand même être obligés de se réappuyer sur une réalité. Parce que les gens qui vont entendre auront besoin de s'y retrouver. Hein, s'ils veulent vraiment. Ou alors on va tomber sur quelque chose qui est « je me fous de ce que les gens ont dit, puis moi je dis ce que je vois ». Je trouve que ce n'est pas le bon endroit, en tous les cas, pour le récit de vie. Hein. Voilà. Donc qu'est-ce qui se passe là? C'est que vraiment on passe aujourd'hui dans beaucoup de conteurs qui ont l'habitude d'être dans l'espace du narratif. Hein, et on s'aperçoit que le récit de vie étant du narratif, c'est quelque chose qu'ils ont l'habitude de pratiquer. Glisse assez facilement du répertoire du conteur à l'espace du récit de vie. Et on a de plus en plus de conteurs qui racontent comme ça des récits de vie, qui composent des récits de vie. Donc ils s'appuient sur des faits réels et ils travaillent là-dessus. Alors ce qui se passe souvent, c'est que pour raconter cette histoire de vie, il ne suffit pas de poser de l'information. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va même essayer de se distancier pour mieux voir. Ça, c'est le travail de l'artiste. Le travail de l'artiste, ce n'est pas de faire de l'actualité, ce n'est pas de vous dire ce qui se passe aux 20 heures. Ça, les journalistes sont là pour ça. D'accord ? Pour lui, c'est faire en sorte que quand on a un événement qui est collé devant notre nez, là, on ne voit rien quand on a le mur là, en face. C'est comment prendre la distance pour mieux voir ce qui se passe dans la globalité. C'est créer l'artifice pour aller dans d'autres formes d'information, dans des formes sensibles, dans des formes émotives, dans des formes de représentation, qu'on ne prendra pas peut-être en compte l'historien. Même si aujourd'hui, il y en a quelques-uns qui commencent à travailler là-dessus aussi. C'est des états de corps, c'est des images, c'est des souvenirs, c'est des rêves. On est dans des matières qui sont parallèles, hein, mais que lui va avoir besoin de remodeler pour qu'il y ait quelque chose qui est de l'ordre de la mémoire humaine qui se dégage vraiment. Donc le conteur en lui-même, qu'est-ce qu'il va faire? Bien sûr, il va souvent anonymiser les personnages, c'est-à-dire qu'il va les rendre anonymes, hein, il va changer les noms. Parce que ce qui est important, ce n'est pas qu'on soit en présence d'une personne ayant vraiment existé. Il va ramener la personne du récit à une espèce de stéréotype représentant l'ensemble des femmes du camp, par exemple. Parce que sinon, il n'a pas le temps, en une heure de spectacle, de parler de toutes les femmes. Et puis pourquoi il parlerait d'une et pas d'une autre? Vous voyez ce que je veux dire? Donc du coup, il va chercher un ou deux personnages qui vont être assez représentatifs pour que tout le monde se retrouve dedans. Parce que son objectif n'est pas de faire de l'histoire, mais de faire sentir profondément ce qui s'est passé dans l'histoire. On avait ici un conteur fabuleux pour ça, c'était Jean-Pierre Chabreul. Tout le monde lui disait, mais c'est pas comme ça que ça s'est passé. Je dis, je suis pas historien. Je suis romancier. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que les gens ressentent vraiment pendant les derniers conflits qu'est-ce qui s'est passé. Donc je cherche un cas spécifique, pas pour dire la vérité, mais pour faire ressentir aux gens toute l'ambiguïté de ces situations-là. Voilà, donc le conteur, il est un peu dans cette démarche. Il n'a pas à dire la vérité, il le dit toujours d'ailleurs, un conteur vous dira d'entrée, je ne suis pas là pour vous dire la vérité, je vais vous dire que des mensonges. Mais à la fin, il vous dira, dans tous les mensonges que je vous ai dit, il y a peut-être une petite part de vérité, là, vous la trouvez. Donc c'est au boulot, il est là, c'est-à-dire que c'est pas faux ce qu'il vous dit, c'est pas vrai non plus, c'est un espace du ressenti qu'il vous propose, une situation. Donc en ce sens, est-ce que le récit de vie fait partie de la littérature orale? C'est un gros problème pour les anthropologues. Parce que pour les anthropologues, la littérature orale, c'est quelque chose qui est anonyme, qui est semi-fixé et qui est objet de variante. La plupart des récits de vie, quand ils sont encore récits de vie, on connaît les personnes qui ont collecté, on connaît les personnes qui ont vécu l'événement. Donc c'est plus anonyme. Souvent, il n'y a pas de variante, il n'y en a qu'une, parce que ça a été écrit, ça a été noté, ça a été posé. Donc on est vraiment dans un genre qui, pour les anthropologues en tant que tel, en tant que récit de vie, n'est pas quelque chose de l'ordre de la littérature orale. Après, ce que fait le conteur, il rend les choses anonymes. On ne connaît plus le personnage. D'accord ? Souvent, il change de version sur le spectacle, parce que si c'est un vrai conteur, il n'écrit pas tout, mais il improvise en partie face à son public. Donc il y a des variantes. Et on se retrouve là dans quelque chose qui n'est plus vraiment dans le récit de vie, n'est plus non plus complètement du conte, mais qui glisse progressivement. Pour les spécialistes, on va plutôt vers le légendaire ou vers l'épopée. C'est-à-dire qu'on va en faire un récit qui peut devenir à terme, si le public s'en saisit parce que ça dit quelque chose de fort, une légende ou une épopée. Donc je dirais que le travail que fait le conteur la plupart du temps, c'est vraiment ce glissement progressif qui va de l'histoire vers le conte. Mais c'est très intéressant parce que ça éclaire complètement ce que c'est que le conte aussi. Parce que le conte, c'est quoi en fait? C'est ce processus-là. C'est sûrement à un moment donné des milliers d'histoires qui se sont brassées, qui se sont filées entre elles et qui sont devenues des espaces de synthèse de l'expérience humaine. Voilà. Mais qui, du coup, n'ont plus à voir avec qui que ce soit, mais à voir avec tout le monde. On est vraiment dans cet espace où, pour moi, le récit de vie est un moteur qui pourrait être intéressant à observer en tant qu'objet de création de la littérature orale de demain. On est vraiment là dans un outil qui est intéressant aujourd'hui parce qu'on s'aperçoit que les conteurs s'en saisissent de plus en plus parce que c'est difficile. On ne peut pas dire qu'on va créer un conte. Le conte ne peut être créé que par la reconnaissance collective. Ce n'est pas un auteur qui peut le créer. Voilà. Mais on peut créer un premier récit qui, à terme, va petit à petit glisser vers le conte. Donc, récit de vie, pour moi, c'est vraiment un espace qui est important aujourd'hui, parce qu'il nous oblige à aller dans une conscience du singulier et du collectif. Si vous avez, ne serait-ce que pour le plaisir, l'occasion de collecter la mémoire d'un de vos proches, mais que vous le fassiez avec un peu de structure, c'est toujours assez fou, parce qu'on découvre vraiment une autre personne. On l'avait jamais connue, ça, là. Parce que du coup, comme on la guide, elle va trouver d'autres images, d'autres expériences à vous dire, d'autres espaces. Souvent, on vous dit, après une collecte, on ne savait pas qu'on le savait, ça. C'est une mémoire qui est là, mais on ne sait plus la dire. Donc, on arrive vraiment à trouver des forces, comme ça, extrêmement puissantes, d'évocation. Et en même temps, on apprend énormément de choses sur nous. Et c'est là l'enjeu aussi de la collecte, c'est-à-dire que le collecteur, il ne sort pas non plus uniquement neutre, parce que quelque part, tout ce que qui va être donné est un lieu qui résonne aussi dans son propre parcours. Donc c'est vraiment un lieu de l'échange. Et ça va être un espace, la plupart du temps, on va dire, extrêmement valorisant d'un côté comme de l'autre. C'est-à-dire que la personne qui donne, eh bien, on lui offre un outil pour se dire. Pour dire sa complexité. Et ça, c'est souvent, on ne lui laisse pas nos paires d'oreilles pour le dire ça. On n'a personne pour guider là-dedans. Donc, ça peut être vraiment un lieu de la ressource, de reconstruire quelque chose, et les personnes âgées en particulier, c'est un espace qui est très important pour elles. Parce que souvent, elles sont tellement délaissées, on les met tellement dans un coin, l'expérience aujourd'hui n'est plus tellement valorisée. Et on ne sait pas trop aller la chercher en plus, cette expérience. Alors quand on a un peu de technique, hein, parce qu'il ne faut pas non plus y aller pour demander est-ce que c'était mieux avant. Parce que ça, c'est d'être sûr qu'on va vous dire oui. Parce qu'avant, on avait 20 ans. Aujourd'hui, on en a 90, c'est moins bien. Mais par contre, si vous demandez à une personne est-ce que vous auriez envie d'y retourner, la plupart du temps, elle va vous dire non. Parce qu'il y a ça aussi, il y a cet espace-là. Donc pour moi, si on fait un travail de collecte, c'est surtout parce qu'on a besoin réellement d'une parole, soit pour se construire, soit pour continuer à construire quelque chose avec la personne. C'est-à-dire que pour moi, quand je vais travailler avec une personne âgée, c'est voilà, je suis en train d'essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe dans telle rue-là, à ce moment-là. Parce que je n'y comprends plus rien dans cette rue-là. Vous pouvez m'aider. Vous avez vécu cette rue, vous pouvez m'aider. Ça veut dire que la personne qui est dans la vieillesse, on va dire, parce que la vieillesse c'est quoi ? La plus grande définition que moi j'aime bien, c'est la vieillesse, c'est quand il n'y a plus de projet. D'accord ? Cette personne, si vous la remettez dans le projet, si vous la remettez dans une utilité sociale, parce que c'est vraiment le cas, si vous la mettez en condition d'apporter quelque chose à la collectivité, bah, vous la faites rajeunir, hein, très rapidement. Il y a une vraie implication qui se met en route. Hein. Voilà. Donc déjà, à ce niveau-là, il y a quelque chose. Et en plus, ce qu'on va faire, c'est servir, bien sûr, la conscience du territoire, la conscience d'une histoire d'une corporation, d'un métier, hein, d'un... Voilà. Donc cet espace de mémoire, de toute façon, sera toujours important. Hein. Sachant que, bon, ça c'est Bachelard qui disait, il n'y a pas de mémoire pour le passé. Toute mémoire est faite pour l'avenir. D'accord ? C'est pas l'espace du musée. Toute mémoire doit normalement être actrice, acteur, pour pouvoir construire le lendemain. C'est un lieu de l'expérience partagée qui devrait servir de référence pour qu'on puisse prendre des appuis. Hein. Voilà, mais c'est toujours pareil, c'est quand on collecte, qu'est-ce qu'on cherche de cette mémoire-là ? Est-ce qu'on cherche à faire musée ? Est-ce qu'on cherche à conserver ? Ou est-ce qu'on cherche des outils qui peuvent être acteurs pour construire l'avenir ? Et ça, c'est un état, quand on va vers quelqu'un. C'est-à-dire qu'on peut enfermer quelqu'un dans un passé, ou on peut lui dire « votre passé nous intéresse pour construire demain ».